Alors la plaine d'Asdrelon dans la Bible a été une frontière peut-être plus que le Jourdain. Pas le Jourdain, on passe de part et d'autre, il y a même une partie des tribus qui s'installent, la tribu de Gad, la tribu de Ruben, les tribus de Manassé. Et de l'autre côté, on se dispute Ramoth en Galade dans les guerres qui sont racontées là. La plaine d'Asdrelon, il a fallu des batailles épiques pour faire la jonction entre les tribus du nord, Zabulon, Nephtali, Dan, Asher, et puis les tribus du sud, Éphraïm, Benjamin, Juda. Je propose qu'on grimpe sur le mont Galboa, qui est à la charnière de la plaine du Jourdain, que remontons là, et puis la plaine d'Esdrelon. On aura une vue magnifique et on va évoquer une des plus célèbres batailles, des deux batailles qu'on est appelé à évoquer, qu'on ne peut pas ne pas évoquer dans la plaine d'Esdrelon. Enfin, Madian et Sisara, comme dans un psaume qu'on va lire, là. Fait deux comme d'hommes, Madian et Sisara. Sisara, avec Déborah, on va le garder pour la journée qu'on fera autour de Nazareth, dans les horizons de la vie cachée. Et on parlera de la femme dans la Bible. Déborah viendra bien à ce moment-là. Mais alors maintenant, vous allez voir que Gédéon et les Madianites, ça va venir très bien ici dans notre route de la lumière. Alors, rappelez-vous le prologue que saint Matthieu met en exergue de la vie publique de Jésus. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, pays de Transjordan, voie de la mer, le pays assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et ceux sur qui était planée l'ombre de la mort, pour eux la lumière s'est levée. On va faire un exercice, pas jusqu'à présent, on était dans l'Ancien Testament et puis ça nous projetait vers le Nouveau Testament. Et maintenant je voudrais qu'on fasse comme à l'inverse. De ce texte de saint Matthieu, on va voir en remontant dans le temps le point d'émergence de ce langage de délivrance et on va voir que ça aboutit à l'histoire de Gédéon et des Madianites. Vous connaissez l'histoire des cruches et puis de la lumière là, qui jaillit des cruches cassées là, dans la nuit. On va faire un exercice dans l'autre sens maintenant qu'on est passé dans le Nouveau Testament. On est au sommet du Galboa et on contemple là-bas la base d'un pays paradisiaque. Là. Dans la Bible, c'était le territoire de Issachar. Son nom évoque comme quelqu'un de corvéable à merci. Au fond, il n'a jamais été chez lui. Les Philistins là, arrivent de la plaine côtière, ils enfilent les passes de Megiddo, de Yokneam ou bien de Taanach et puis ils dévastent tout. Et c'est sur le mont Galboa où nous sommes que Saül va être vaincu par les Philistins. Et puis alors, dans l'autre sens, les Madianites là, arrivent du fond des déserts de l'Arabie là, et puis dévastent tout sur leur passage. Et puis les chars des Cananéens là, font peur aux Hébreux. Ils étaient bons soldats dans la montagne, mais ils n'osaient pas se risquer dans la plaine. Alors il y a des grandes batailles épiques pour la jonction là, par-dessus cette plaine d'Esdrelon que nous contemplons maintenant. Alors le vieux Jacob, avant de mourir, là, il formule la prédestination d'Issacar, le territoire que nous contemplons là. Il dit que c'est un âne robuste. Il est couché au milieu des enclos. Il trouve que le repos est bon, que le pays est agréable. Il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la corvée. Il trouve que le repos est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que couper la journée ici?
Alors on est arrivé en Galilée et on a suivi la route de la lumière. On rappelait les Néomanies, le brasier qui est allumé sur le mont des Oliviers, ensuite sur le Sartabé. On continuera à voir les autres points de vue, Belvoir, le Tabor, etc. La route de la lumière. C'est une grande lumière qui nous accueille ici. Comment est-ce que saint Matthieu inaugure la vie publique de Jésus dans son évangile? Vous ne connaissez pas ce texte?
Le peuple qui marchait dans les ténèbres.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Et laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm sur le bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Naphtali, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète, terre de Zabulon et terre de Naphtali. Route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est un texte sonore, là. Ça ressemble un peu en français, là, Vendôme.
Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme.
Oui. Moi, je regrette qu'on fasse un peu trop bon marché dans les mélodies modernes, pas de tous ces termes géographiques, comme si ça n'avait pas d'importance. Autrefois, en Grégorien, on respectait tout ça, puis on chantait Terre de Zabulon, Terre de Nephtali. On chantait ça à Noël. Et on chantait non pas le texte de saint Matthieu, mais le texte auquel saint Matthieu se réfère. Tenez, on va faire un exercice en sens inverse de ce qu'on fait habituellement. Ici, on commence par le nouveau, et puis on va aller reculant. On va voir où est-ce que ça s'enracine, ce langage. Alors Matthieu, manifestement, s'enracine là dans un texte qui se trouve à la fin du chapitre 8 de... Et la petite note nous aide à situer le contexte. Ça introduit l'oracle, le jour de Dieu qui libérera les déportés, sans doute les Galiléens, déportés par Tiglath-Phalazar, dont il est parlé aux deux rois, 15-29. Vous rappelez, les Assyriens arrivent, connaissez tous ces noms sonores des Assyriens, Sargon, Tiglath-Phalazar, Salmanazar, Tubertonphalazar, etc. Tous ces noms tout à fait extraordinaires. C'est un récit de délivrance. Comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir glorifiera le chemin de la mer, la Via Maris. Au-delà du Jourdain, la Transjordanie, le district des nations Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Alors pourquoi est-ce qu'on lit à Noël? Parce que c'est dans le contexte l'enfant qui est né. Je continue un peu le texte. Le joug qui pesait sur elle, la barre pesée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Oui, ça va nous inviter à faire un pas encore plus en arrière là, dans le temps. Je continue encore pour que vous compreniez pourquoi on lit ce récit à Noël. C'est lié à la naissance de l'Immanuel. Toutes chaussures qui résonnent sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mises à brûler, dévorées par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom conseiller. Merveilleux, Dieu, fort, Père éternel, Prince de la paix. Pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice, dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. Tu les as brisés comme au jour de Madian. Faisons un pas en arrière encore, et nous arrivons à un psaume tellement sauvage que si vous lisez le document là, qui est dans la liturgie des heures au début du premier tome, on vous montre la lecture chrétienne de la Bible, c'est un document à lire, hein. C'est vraiment, je crois qu'il y a une lecture chrétienne de la Bible, et avant d'aller chercher ailleurs, lisez ce document. Mais alors on nous explique pourquoi on a supprimé certains psaumes, qui ont été, le psaume 83 que je vous lis est un psaume que dans la pastorale on a jugé utile de ne pas mettre dans les quatre semaines avec le psaume 58 et le psaume 109. Ici, parce que quand Israël est entouré par ses ennemis de tous les côtés, et alors il crie vers Dieu et il demande à Dieu de sortir de son silence et puis d'intervenir comme il a fait au jour de Madian et de Sisara. Géographiquement, cette grande plaine d'Esdrelon, ça a été plus longtemps une frontière que le Jourdain. On a vu que les Hébreux étaient de part et d'autre du Jourdain. Bon, le Jourdain, on l'a vu en montant, là c'est un petit ruisseau qu'on traverse très facilement.
Oui, parce que rappelons ici que nous sommes sur le mont Gilboa.
On est sur le mont Gilboa qui domine la grande plaine. Je ne dis pas Israël comme en hébreu parce que les bons français ils confondent avec Israël. Alors il y a des jeux de mots marqués dans la Bible, dans le prophète Osée. Mais ce n'est pas la même chose. Ben, Israël, ça veut dire Dieu s'aime. Tandis que Israël, on l'a vu tout à l'heure, c'est que tu étais fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as emporté. Le mont Jacob. Alors, habituellement, on dit la plaine d'Esdrelon, et en fait, c'est pas plus mal pour éviter les confusions. Alors, je dirais la plaine d'Esdrelon, comme ça, vous savez, c'est Israël. Alors, cette plaine de Israël, pendant très longtemps, pas les Hébreux, lors de la conquête, étaient bons soldats dans la montagne, mais dans la plaine, ils n'osaient pas se risquer, parce que les Cananéens, du coin, avaient des chars et des chevaux, ils étaient beaucoup mieux armés qu'eux. Et alors, la plaine d'Esdrelon, qui avait échoué en partage avec Issachar, on dit l'homme de peine, au fond l'homme corbéable à merci. Il est comparé à un homme bien gras qui trouve que le repos est bon. On connaît très bien ici pour se reposer. Les tribus du sud et les tribus du nord ont mis beaucoup de temps à faire la jonction. Pour les tribus du nord, Zabulon, Nephtali, Dan, Asher, et puis les tribus du sud, là, Manassé, Ephraïm, Judas et Benjamin, hein, ont eu du mal à faire la jonction par-dessus cette plaine d'Esdrelon. Et alors, c'est un grand champ de bataille. On ne peut pas raconter toutes les batailles qui sont passées ici. Il faudrait commencer par Saül, parce qu'on pense d'abord à lui, qui lutte contre... Et les Philistins qui arrivent là-bas de la plaine côtière, enfilent les passes de Taanach, de Megiddo, et puis la troisième, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus le nom maintenant. Et puis, ils circulent. Et ici, nous sommes à l'est de cette plaine d'Esdrelon. Ils arrivent jusqu'à la plaine du Jourdain. Et c'est là que Saül meurt en luttant contre les Philistins. Et en sens inverse, alors, les Madianites, qui sont des bédouins pillards, arrivent du fond du désert, et puis en sens inverse, ils vont piller jusque la plaine côtière. La troisième passe, Yokneam, elle revient à la mémoire maintenant, les trois passes. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, les grands combats épiques, ben, c'est ceux qui se déroulent pour la maîtrise de cette plaine d'Esdrelon. Et alors, les deux qui viennent à la mémoire d'abord, c'est le combat de Madian et de Sisara. Sisara, c'est Déborah et Barak, pas contre Sisara et ses chars. On aura l'occasion de le lire. Et alors, ici, nous sommes très bien placés pour parler du combat contre les Madianites et Gédéon. Et vous allez voir que tout ce langage de délivrance qui vient, pas comme se jeter dans le grand courant du langage de délivrance qu'on a expérimenté en Égypte. Non, dans Isaïe, on trouve la jonction, tenez, on trouve la jonction. Dieu, Sabaoth, va brandir contre lui un fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et va brandir son bâton contre la mer, comme il l'a levé sur le chemin d'Égypte. Vous sentez comment la délivrance d'Égypte et puis les grandes délivrances épiques du champ de bataille que nous avons sous les yeux se rejoignent. Et alors ça continue. Et puis au terme des transpositions, des spiritualisations, nous avons, Saint Matthieu, le bon scribe, il n'a pas trouvé pour parler de la prédication de Jésus que ce langage de délivrance qui vient nous inviter à sortir des aliénations, de la mort et du péché. Il reprend les grands récits épiques. Santé. Alors nous sommes au psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas muet. Plus de repos, plus de silence, ô Seigneur. Regarde tes adversaires qui grondent, tes ennemis qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot. Ils conspirent contre tes protégés et disent, venez, retranchons-les des nations, qu'on n'ait plus souvenir du nom d'Israël. C'est un peu ce qu'on fait même dans la liturgie maintenant. Il y a des certains textes qui suppriment même Israël. Tellement ce mot est devenu dangereux au niveau, hélas, où se situe la pensée maintenant. Ils conspirent tous d'un seul cœur. Contre toi, ils scellent une alliance. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, Zagrib, Gébal, Ammon, Amalek, la Philistie avec les gens de Tyr, et même Assur, la superpuissance là derrière, s'est jointe à eux. Ils prêtent main forte aux fils de Lot, que c'est Moab et Ammon. Alors, devant cette coalition, devant cette menace d'extermination, alors Israël prie, et puis dit à Dieu, fais d'eux comme de Madian et de Sisara. Oui, les deux grands combats épiques là, qui se déroulent sous nos yeux. On est bien placé ici pour lire l'histoire de Gédéon. On sera mieux placé du côté du... Il y a une colline là, qui est au milieu de la plaine. Ici, elle dissimule le champ de bataille de Déborah et de Barak. Là, on récupérera une autre fois. Mais prenons ici l'histoire de Madian. Comme de Yabin et torrent de Kishon, ils furent détruits à Endor. Oui, Endor, c'est l'histoire de la sorcière que Saül va consulter avant de mourir tragiquement sur cette montagne où nous sommes maintenant aussi. Que de choses à lire. Vous savez comment on rend fou un caméléon?
On le met sur un tissu écossais.
On le met sur un tissu écossais. Ben moi, c'est quand je me promène dans ce pays, surtout quand dans les autobus qui font du 80 à l'heure sans pouvoir s'arrêter, on ne sait plus quoi dire. Enfin, tous les récits viennent en même temps. Et c'est un peu comme ça maintenant. Alors j'essaie de choisir. C'est terrible. Il faut choisir, toujours choisir. Et dans le désert, ça va, on peut marcher des kilomètres sans... Mais ici, toutes les pierres crient, alors il y a de quoi devenir malade. Fais-les quand on est guide. Fais-les comme de Madian et de Sisara, comme de Yabin au torrent de Kishon, ils furent détruits en dehors, ils ont servi de fumier à la glaive, etc., etc. Eux qui disaient à nous l'Empire sur les demeures de Dieu. Mon Dieu, traite-les comme une roue d'acanthe, comme un fétu en proie au vent, comme un feu dévore une forêt, comme la flamme embrase les montagnes. Ainsi, poursuis-les de ta bourrasque par ton ouragan, remplis-les d'épouvante. Couvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Sur eux, la honte et l'épouvante pour toujours, la confusion et la perdition, et qu'ils le sachent, toi seul annonce un nom, Seigneur, très haut sur toute la terre. Alors, vous ne savez pas si on a raison dans la pastorale. Ce qu'il faut, c'est avoir le sens pour du progrès du dessein de Dieu, hein. Encore une fois, mais vous savez, il y a des gens qui en sont à ce stade-là maintenant. Hein. Et le bon Dieu, il n'a pas, il va pas peupler la Jérusalem céleste de Français moyens. Hein. Il prend des hommes et des femmes de chair et de sang. Hein. Il y en a actuellement beaucoup qui vivent dans cette logique-là. Et il faut pas croire que le bon Dieu ne les aime pas. Et quand il y a des guerres hein, des deux côtés, Gott mit uns, oui, non, il y a les deux côtés. C'est terrible cette histoire-là. Moi j'ai vu comme ça dans mes groupes, là, c'était un missionnaire, là, comme on n'en fait plus, qui était au Vietnam, il a vécu dans les hauts plateaux, il est passé par les pires aventures, il a traversé tout ça, il y avait une petite bible de poche. Et là il a fait la BST, comme ça, après avoir échappé à tout ça. Et puis sa petite Bible, il la sortait là, elle était toute ouverte, usée aux évangiles, les épîtres de Saint Paul, le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, comme ça. Et puis ensuite, les pages étaient encore collées, comme quand il avait acheté chez le libraire. Et alors, quand on a lu tout ça, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas lu tous ces textes quand j'étais dans les situations terribles que j'ai vécues? J'aurais compris que Dieu, il est là. Dans ces combats, non pas pour nous encourager à combattre, à être cruel, mais il est là avec nous pour nous aider à progresser vers l'Évangile. Alors allons encore un peu plus haut, comme Madiane et Sisara. On va regarder Sisara quand on verra l'autre côté de la plaine d'Israël. Et maintenant, on va lire l'histoire, alors que nous sommes invités à lire, de Gédéon. Gédéon, maintenant, c'est un canard dans la littérature enfantine. C'est dommage, il faut revaloriser ce nom-là. Gideon en hébreu. Tenez, je prends le livre des Juges au chapitre 6. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Vous avez un refrain ici qui parcourt toute la littérature des livres, comme ça, historiques de la Bible. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu, premier temps. Dieu les livra pendant 7 ans aux mains de Madian. Ils retournent en captivité. Cette fois-ci, c'est Madian. Et la main de Madian se fit lourde sur Israël. Et pour échapper à Madian, les Israélites utilisèrent les crevasses des montagnes, les cavernes et les refuges. Chaque fois qu'Israël avait semé, dans cette plaine de Yisraël, qui veut dire Dieu sème, alors Madian montait, ainsi qu'Amalek et les fils de l'Orient, ils arrivent de par là. Ils montaient contre Israël et campaient sur sa terre, ils dévastaient les produits du sol jusqu'aux abords de Gaza, pays des Philistins là-bas. Il ne laissait à Israël aucun moyen de subsistance, ni une tête de petit bétail, ni un bœuf, ni un âne. Ils arrivaient, eux, leurs troupeaux et leurs tentes, aussi nombreux que les sauterelles, eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Et Madian réduisit Israël à une grande misère. Et les Israélites crièrent vers Dieu. Ils font le mal, Dieu les livre à la servitude. Du fond de la servitude, comme au temps des briques en Égypte, ils crient vers Dieu, qui leur envoie un libérateur. Mais alors, la servitude est telle qu'on n'y croit plus à la liberté. On en a perdu le goût. On dit toutes ces histoires que grand-papa nous raconte, on n'y croit plus. Alors là-dessus, vous avez la vocation de celui qui va opérer la libération. L'ange de Dieu vint s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joash d'Aviézer. Et Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir, par exemple pour le camoufler et pour pas qu'il soit pris par les Madianites, pour le soustraire à Madian. Et l'ange de Dieu lui apparut. « Dieu est avec toi, lui dit-il, vaillant guerrier. » Quand Dieu est avec, le Seigneur soit avec toi, vous rappelez ?« Ayez, ayez, cher, ayez, je serai avec toi, je suis. » Gédéon lui répondit, « Je t'en prie, mon Seigneur, si Dieu est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous ces prodiges que nous racontent nos pères quand ils disent Dieu nous a fait monter du pays d'Égypte? Dieu nous a abandonnés, nous a livrés au pouvoir de Madian. » Alors Dieu se tourne, on passe de l'ange de Dieu à Dieu lui-même, se tourne vers lui et lui dit, « Va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Marqué dans le Nouveau Testament, c'est le même langage. Il sera appelé Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Simplement de l'aliénation qui a changé. C'est toujours le langage du salut, du sauveur qui est envoyé par Dieu pour opérer des délivrances, Dieu qui est les issues de la mort. « Pardon, mon Seigneur, dit Gédéon, comment vais-je sauver Israël? Mon clan est le plus pauvre en Manassé et moi je suis le dernier dans la maison de mon père. » C'est toujours la grande loi de l'élection. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va chercher dans un coin perdu le dernier des derniers. Vous pouvez voir ça à plusieurs reprises. Et saint Paul le dira aux Corinthiens. Si regardez un peu, vous tous, tant que vous êtes. Dieu lui répondit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme si c'était un seul homme. » Alors il demande un signe, je passe, vous direz tout ça. On ne peut pas tout lire, l'épreuve de la toison. Je passe au chapitre 7. Yerubal, c'est-à-dire Gédéon, il y a deux traditions qui sont fusionnées. Il y en a une dans laquelle le héros s'appelle Yerubal, et puis l'autre où il s'appelle Gideon. Se leva le grand matin, ça c'est une chose, un bon conseil au passage. Ainsi que tout le peuple qui était avec lui et vint camper à Ein Harod. C'est là qu'on va arriver dans quelques instants. Ein, qu'est-ce que ça veut dire?
La source.
La source. Commencez à savoir l'hébreu. Et Harod, ça veut dire le tremblement, la trouille. Ça veut dire la fontaine de la trouille. Le camp de Madian se trouvait au nord du sien, au pied de la colline de Moré, dans la vallée. La colline de Moré, c'est celle qui est au milieu de la plaine d'Esdrelon.
et qui divise cette la plaine d'Estrelon en deux. Hein. Il y a la vallée qui est ici et puis la vallée qui est de l'autre côté en direction du Tabor. Alors Dieu dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire c'est ma propre main qui m'a délivré. Sentez, ça c'est le grand danger de croire que c'est nous qui sommes importants, alors que c'est Dieu qui se sert de misérables instruments pour faire de grandes choses dans le monde. Et maintenant, tu vas proclamer ceci aux oreilles du peuple, que celui qui a la peur et qui a la trouille, oui, c'est le harod, là, c'est un récit, ça, il faut écouter en hébreu. Il y a des tas de choses qu'on perd si on n'écoute pas ça en hébreu. Il y a des tas de jeux de mots. Alors, qu'il s'en retourne et qu'il observe du monde Galboa. 22 000 hommes parmi le peuple sont retournés et il resta 10 000. Tenez, si vous ne connaissez pas un petit peu la guerre sainte, alors vous risquez de ne pas comprendre ce qui se passe. Tenez, je vous lis dans Deutéronome la guerre sainte. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas la trouille. Car le Seigneur ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous qui êtes aujourd'hui sur le point d'engager le combat contre vos ennemis, que votre cœur ne faiblisse pas. N'ayez ni crainte ni angoisse et ne tremblez pas devant eux, car le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis et vous sauver. Puis les scribes parleront au peuple et diront, que celui qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore dédiée, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre ne la dédie. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore cueilli les premiers fruits. Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre en accueille les premiers fruits. Qui s'est fiancé à une femme et n'a pas encore épousé. Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre ne l'épouse. Les scribes diront encore au peuple, celui qui a peur et qui sent mollir son courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui afin de ne pas faire fondre comme le sien le cœur de ses frères. Alors que ceux qui ont la trouille, s'en aille. Et tenez dans le Deutéronome ici, pour les gens qui se marient là. Si un homme vient de prendre femme, il n'ira pas à l'armée, et on ne viendra pas chez lui l'importuner. Il restera un an chez lui, quitte de toute affaire, pour la joie de la femme qu'il a prise. Quand on dit que la Bible n'est pas un livre humain. Mais dans l'Évangile, vous ne connaissez pas une parabole là, où les mêmes comparaisons sont reprises? Oui, c'est ça, c'est les invités discourtois, l'invitation au festin, et puis ils s'excusent, il y en a qui disent, moi j'ai acheté une ville, moi j'ai fait une maison, moi je viens de me marier. Vous vous rappelez? Il y a un renversement des valeurs ici. Les valeurs de l'Ancien Testament, la guerre sainte, c'était pourtant très haut. Mais alors, devant la prédication de l'Évangile, laisse les morts enterrer les morts et va prêcher le royaume de Dieu. Il y a un facteur nouveau qui est intervenu, c'est que l'absurdité de la mort a été franchie. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile et ça bouleverse la hiérarchie des valeurs. Un des plus urgents que la prédication de l'Évangile. Bon, je continue l'histoire de Gédéon. Alors, 22 000 hommes parmi le peuple sont retournés et il en resta 10 000. Dieu dit à Gédéon, ce peuple est encore beaucoup trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là, pour toi, je les éprouverai. Celui dont je te dirai qu'il aille avec toi, celui-là ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai qu'il n'aille pas avec toi, celui-là n'ira pas. Gédéon fit alors descendre le peuple au bord de l'eau. Et Dieu lui dit, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les mettras d'un côté. Tous ceux qui s'agenouilleront pour boire, tu les mettras de l'autre. Le nombre de ceux qui lapèrent l'eau avec leurs mains et leur bouche fut de 300. Tout le reste du peuple s'est agenouillé pour boire. Alors Dieu dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Alors ici, les commentaires bafouillent. On se demande vraiment, parce qu'il semble que la pointe du récit, c'est que Dieu va opérer des merveilles avec rien. Bon, il semble que les 300, c'est les plus médiocres du régiment. Vous voyez, ceux qui ne prennent pas les précautions les plus élémentaires, ils n'ont pas lu le manuel du soldat. De quoi sont les pieds du fantassin, vous connaissez ? Sont l'objet de soins attentifs. Dans quoi fait-on les feuillets? Dans les 5 premières minutes du campement, vous connaissez le manuel du soldat. Ils ne prennent pas les précautions les plus élémentaires. Et là, c'est avec ces 300-là que la victoire va être remportée. C'est avec ces 300 qui ont lapé l'eau que je vous le sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le peuple s'en retourne chacun chez soi. Il prit les provisions du peuple, on renvoie tout le monde sauf les 300. Le camp de Madian se trouvait au-dessous du sien dans la vallée. Gédéon divisa ses 300 hommes en 3 groupes. À tous, il remit des corps et des cruches vides avec des torches dans les cruches. « Regardez-moi, leur dit-il, et faites comme moi.
Quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Je sonnerai du cor, moi et tous ceux qui sont avec moi. Alors vous aussi, vous sonnerez du cor tout autour du camp, et vous crierez pour Dieu et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent à l'extrémité du camp au début de la veille de la minuit. Ils sonnèrent du cor et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Alors, les trois groupes sonnèrent du cor et brisèrent leurs cruches. De la main gauche, ils saisirent les torches. De la main droite, les cors pour en sonner. Et ils crièrent épée pour Dieu et pour Gédéon. Et ils se tinrent immobiles, chacun à sa place autour du camp. Tout le camp alors s'agita, et poussant des cris, les Madianites prirent la fuite. Pendant que les 300 sonnaient du cor, et Dieu fit que dans tout le camp, chacun tournait l'épée contre son camarade. Tous s'enfuirent jusqu'à Bethachita. Bon, alors vous lirez la suite, mais... Moi, ce que je voudrais simplement, c'est que vous sentiez comment cette victoire de la lumière sur les ténèbres, hein, et saint Matthieu prend ce langage des délivrances pour parler de la prédication de Jésus là, qui se fait en Galilée, terre de Zabulon, terre de Nestali. Si on remonte, si on passe par Isaïe, si on passe par les psaumes, si on passe par... on arrive à cette histoire de Gédéon.